Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient dans un instant. Vos questions à la rédaction, c'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes des RFI, nos experts ici à Paris, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. C'est l'occasion, vous le savez, de nous poser toutes vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter les sujets que vous entendez tout au long de la journée sur notre antenne. N'hésitez pas évidemment à nous appeler, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez d'ailleurs le faire tout au long de la journée. On a évidemment besoin de vos questions avant de commencer l'émission pour contacter justement les experts, les prévenir, qu'ils soient présents, libres, disponibles à cette heure-ci pour vous répondre. Vous nous appelez au standard 33 9 693 693 70, les réseaux sociaux évidemment, la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité, sans oublier de nous indiquer un numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur les 3 ans du président Ibeka à la tête du Mali. Vous êtes déjà très nombreux à nous appeler de Bamako pour commenter ces 3 ans. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait été élu, rappelez-vous, avec plus de 77% des suffrages, c'est dire l'immense espoir qu'il avait suscité. À l'époque, s'était engagé à lutter contre la corruption, à relancer l'économie du pays. Il avait même promis de créer 200 000 emplois. Il s'était engagé à restaurer la sécurité en luttant contre les mouvements djihadistes. Il avait également promis d'instaurer la paix, évidemment, avec les groupes armés du Nord. 3 ans après, Ibeka est-il à la hauteur des attentes? Que reste-t-il finalement de son slogan de campagne? Rappelez-vous, l'honneur du Mali, le bonheur des Maliens. Eh bien, nous en parlerons ensemble. 33 9 693 693 70 et vos réactions, évidemment, sur les réseaux sociaux. Allez, on passe très vite au standard. On a une première question qui nous vient justement de Bamako, mais on va surtout parler de la Libye avec Alassane. Bonjour Alassane.
Bonjour Monsieur Juan Gomez, bonjour.
Bienvenue sur notre antenne. Vos questions sur la Libye, on vous écoute.
Voilà. J'ai appris récemment que la Libye a expédié les stocks des armes chimiques en dehors du pays. Maintenant, j'aimerais savoir, M. Juan Gomez, pourquoi le gouvernement libyen a préféré envoyer ces armes en dehors de la Libye? Ces armes représentaient-elles une menace sérieuse pour la Libye?
Ah, Houda Ibrahim est à mes côtés, journaliste au service Afrique d'RFI. Bonjour Houda.
Bonjour Juan.
Alors, des armes chimiques héritées, il faut le rappeler, du régime de Muammar Kadhafi, c'était les dernières armes chimiques libyennes qui ont été expédiées récemment vers l'Europe. L'opération, évidemment, s'est déroulée sous la supervision des Nations Unies. Ces armes, elles représentaient un danger pour le pays?
Bien sûr, surtout si ces armes arrivent dans les mains d'organisations terroristes, extrémistes, comme l'organisation État islamique. On sait aujourd'hui que cette organisation, par exemple, arrive à développer des mines à explosion très très forte, et elle utilise ça beaucoup dans la ville de Sirte aujourd'hui. Elle l'a utilisé en Irak et en Syrie. On apprend que cette organisation, dans une région comme le Sinaï, par exemple, arrive à utiliser des mines de la Deuxième Guerre mondiale, à déminer ces mines pour les transformer en mines encore plus puissantes et plus fortes. Bien sûr que c'est un danger, et il faut rappeler que ces armes ont été extraites de la Libye parce que la Libye, en 2004, a ratifié la convention de
l'Organisation des Nations Unies pour l'interdiction des armes chimiques. C'était effectivement une volonté à l'époque de Muammar Kadhafi de se réconcilier, en tout cas de se rapprocher des Occidentaux.
Exactement. Et à l'époque, dans les années 70, Muammar al-Kadhafi, comme beaucoup des pays du Sud, avait des ambitions pour avoir l'arme atomique. Et c'était à cette époque-là qu'il a payé des millions de dollars au Pakistan pour se doter de cette arme, en se disant que plus tard, cette arme, ce programme, il peut se le procurer. Et quand il n'a pas pu faire ça, il a choisi les armes chimiques. Et il faut rappeler que beaucoup de pays du Sud croient que les armes chimiques peuvent pour eux, remplacer les armes atomiques.
Donc il y a effectivement cette crainte que ces armes ne tombent entre les mains des groupes de l'État islamique, notant que ces armes étaient stockées dans la région de Sirte, la région où se trouvent justement en ce moment ces djihadistes de Daesh. Alassane, vous avez une autre question ?
Oui, monsieur Juan Gomez, qui détient actuellement ces armes ?
Alors, ces armes, elles ont quitté la Libye il y a quelques jours. Direction quel pays ?
L'Allemagne. C'était les Danois qui ont transporté ces armes avec l'aide des Britanniques. Mais il faut rappeler qu'une très grande partie de ces armes était restée au sud de la Libye, bien cachée. Et il faut citer un homme de l'ancien régime, c'est Abdelhat el-Obeidi, qui était l'ex-ministre des Affaires étrangères du régime de Kadhafi, qui vit aujourd'hui au Caire et qui était emprisonné après la révolution de 2011. On peut dire, et il est sorti en 2015 grâce aux pressions internationales. Cet homme, c'est la boîte noire des armes chimiques en Libye. C'est lui qui a indiqué la cachette de ces armes à la communauté internationale. Et la communauté internationale, donc, ces armes sont détruites aujourd'hui en Allemagne. Il reste un petit peu en Libye et ça va être transporté avant la fin de l'année. Mais il faut rappeler que dans les années 80, il y a eu des usines allemandes et d'autres pays européens qui étaient impliqués dans la fabrication de ces armes à l'intérieur de la Libye. En 2002 même, il y avait deux personnes qui étaient jugées en Allemagne à cause de ça.
En tout cas, elles seront ces armes détruites par une société qui a l'habitude, puisqu'elle a déjà détruit des stocks du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Merci beaucoup Houda Ibrahim de nous avoir rejoint ce matin dans Appel sur l'actualité. Bonne journée à Bamako où il est 8h17. On continue avec vos questions. Eric, bonjour.
Bonjour, Thomas.
Bienvenue sur notre antenne. Vous êtes en Côte d'Ivoire et vous avez, vous, des questions sur le TAFTA, le traité transatlantique de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne.
Tout à fait. Il y a quelques jours, le gouvernement de la France et de l'Allemagne réclamait l'arrêt immédiat des négociations portant traité transatlantique. Donc, j'aimerais savoir en quoi consiste ce traité.
Oui.
Et quels sont les éléments qui font blocage dans les négociations ?
Alors, c'est un sujet particulièrement complexe. En tout cas, c'est vrai que les négociations durent depuis maintenant 3 ans, des négociations entre Washington et la Commission européenne. On rejoint justement l'un de nos correspondants à Bruxelles, où se trouve la Commission européenne. Bonjour, Quentin Dickinson.
Bonjour, Juan, et je salue également Eric à Daloa.
À Dalois, en Côte d'Ivoire. Alors c'est vrai qu'il y a quelques jours, des ministres français, en l'occurrence le Premier ministre Manuel Valls, mais aussi des ministres allemands, ont clairement remis en cause ces négociations. D'abord, expliquez-nous en quoi consiste le traité transatlantique.
Eh bien, finalement, au regard des 52 textes déjà en vigueur et qui lient l'Union européenne à des pays tiers dans le monde entier, ce projet de traité transatlantique est en fait d'une grande banalité. Il prévoit d'abord l'abolition des droits, principalement douaniers, et des obstacles techniques qui servent le plus souvent, vous le savez, à masquer des intentions protectionnistes dans les échanges commerciaux entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Cela signifie que les uns auront accès au marché des autres, dans la limite cependant de dérogations permanentes visant telle ou telle activité ou production. Il entend aussi, ce traité, encourager les investissements transatlantiques croisés et ouvrir aux Européens l'accès au marché public américain et réciproquement. Voilà pour la théorie. Mais quand on en vient au détail, ce n'est pas si simple. D'abord, se pose la question de savoir qui tranchera les inévitables conflits d'interprétation, tribunaux américains, tribunaux européens ou instances existantes ou spécifiques d'arbitrage commercial international. Ensuite, de chaque côté de l'Atlantique, on veut évidemment équilibrer les échanges en sa faveur, c'est-à-dire accroître ses exportations tout en limitant ses importations, d'où un fossé croissant sur les exemptions. Ainsi, nous, Européens, nous voulons bien inonder les USA de champagne et de yaourt, mais nous ne voulons aucunement accepter chez nous du poulet rincé au chlore ni du maïs transgénique. Enfin, une partie non négligeable de la difficulté, ce sont les approches divergentes des pays de l'UE entre eux, tout comme les limites des pouvoirs réglementaires que le gouvernement fédéral américain peut exercer sur les 50 États fédérés.
Et alors, je le disais, ces négociations, ce ne sont pas les États membres qui les mènent directement, mais c'est la Commission européenne avec le gouvernement américain. Qu'est-ce qui bloque dans ces négociations ? Pourquoi la semaine dernière, Manuel Valls a dit « il faut qu'on arrête ces négociations, l'accord qui est sur la table est inacceptable ».
il faut y voir évidemment une espèce de jeu qui annonce l'amorce réelle des négociations, parce que depuis 3 ans, vous le disiez, Juan, on joue au chat à la souris, on tourne autour du pot et on n'entre pas vraiment dans le débat, dans la vraie négociation. Alors, ce sont des signes qui ne trompent pas, c'est-à-dire que nous sommes dans la dernière ligne droite avant le début véritable des négociations et chacun y va d'une dramatisation de sa position.
Ouais, et signalons quand même que les citoyens européens ne sont pas forcément consultés, informés de l'évolution sur ces négociations, ce qui crée évidemment énormément de rumeurs et de mobilisation. D'ailleurs, en Allemagne, plus de 100 000 personnes ont déposé récemment une plainte auprès de la Cour constitutionnelle contre cet accord de libre-échange. On me dit qu'Eric a une dernière question à vous poser, Quentin Dickinson. Eric.
Oui, Juan Gomez. J'aimerais savoir quelle est la réaction des Américains face à la frilosité des Européens.
Ah, comment les Américains ont-ils réagi après les déclarations tonitruantes de Manuel Valls et du ministre de l'économie allemande?
Je pense qu'il ne faut surtout pas penser que c'est unilatéral. L'erreur, ce serait de penser que les autorités américaines poussent à la roue actuellement pour conclure cette négociation. Au contraire, il leur arrive même de fuiter des rapports internes qui concluent que l'UE serait globalement perdante, par exemple en matière agricole. Et clairement, les priorités, on le sait, de l'ère Obama ne sont plus dans la relation transatlantique, mais plutôt recentrées sur l'Asie-Pacifique. D'autre part, en Europe, ne se montrent frileux, puisque c'est le terme dont se sert Eric, ne se montrent frileux que ceux qui, de près ou de loin, considèrent que la croissance économique est un objectif dépassé, suivi en cela par des responsables politiques qui pensent y gagner en popularité personnelle à l'approche d'élections. C'est notamment le cas du vice-chancelier allemand. Mais la réalité, c'est que la négociation transatlantique ne se noue que maintenant, on le disait à l'instant, et qu'une négociation, quelle qu'elle soit, n'a aucune chance d'aboutir si elle se déroule sur la place publique, lorsqu'elle est conclue, et c'est à ce moment-là et pas avant, que les parlements européens et nationaux diront s'ils en veulent ou non.
En tout cas, ce n'est pas à la France ni à l'Allemagne de décider d'arrêter les négociations. La France n'a pas le pouvoir d'arrêter ces discussions. La décision doit être prise par les 27 et nul doute que ce sujet sera évidemment au menu des discussions lors du prochain sommet de l'Union européenne. Quentin Dickinson, bonne journée à Bruxelles. On remercie Eric qui nous appelait donc de Côte d'Ivoire. 10h22 ici à Paris. N'oubliez pas dans 20 minutes maintenant notre débat du jour, votre bilan à vous qui nous écoutez au Mali sur les 3 premières années du mandat d'Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta. 33 9 693 693 70. Des questions maintenant sur les relations entre Washington et la Havane. Zico, bonjour.
Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Vous nous appelez de l'Est de la République démocratique du Congo, d'où le léger décalage sur le réseau téléphone. On vous écoute.
Oui, merci Juan. Après plus de 50 ans de rupture diplomatique entre les États-Unis d'Amérique et Cuba, un vol commercial a été effectué entre les deux pays. Sur ces entrefaites, j'aimerais savoir Juan, comment expliquer que ce vol commercial est lié, sachant que les citoyens américains sont toujours interdits de séjour à Cuba?
Ah, bonne question. C'est vrai qu'il s'agissait du premier vol régulier entre les États-Unis et la Havane en 55 ans. L'avion a décollé de Floride. Il a atterri à Santa Clara, dans le centre de l'île, avec à son bord 150 passagers. Mario Menendez, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la politique étrangère des États-Unis. Vous enseignez à Sciences Po Rennes. Il faut quand même rappeler aux auditeurs que des vols, il y en a tous les jours entre les États-Unis et Cuba. Mais jusqu'à présent, il s'agissait de vols charter. Désormais, les vols réguliers sont autorisés. Mais il y a quand même encore un problème, comme nous le dit Zico. Il est toujours compliqué pour les citoyens américains de se rendre à Cuba.
Tout à fait. Mais par contre, ils peuvent se rendre plus facilement, même s'ils doivent passer par faire une demande spécifique et être à l'intérieur d'un certain type d'organisation. Et les faire à travers une organisation. Ça veut dire que, pour le moment, les citoyens américains peuvent aller à Cuba, ça pose aucun problème en ce moment, mais ils doivent faire une demande au gouvernement pour avoir un permis spécifique.
En tout cas, ça n'empêche pas les visiteurs américains d'être de plus en plus nombreux à se rendre à Cuba. J'ai quelques chiffres sous les yeux. L'année dernière, 161 000 Américains se sont rendus sur l'île. Une tendance d'ailleurs qui se confirme depuis le début de l'année. Près de 100 000 séjours d'Américains, rien que pour les 4 premiers mois de 2016. Donc, il y a de plus en plus d'Américains qui souhaitent se rendre sur place. Zico, vous avez une autre question?
Oui, Roald. Et finalement, est-ce que cet événement peut inciter le Congrès américain à voter en faveur de la levée de l'embargo?
Alors, est-ce que ce vol régulier peut inciter effectivement les Américains à définitivement mettre fin à cet embargo qui a été décrété en 1962?
Ça, c'est une autre question et c'est très difficile à répondre parce que ça doit passer par les congrès et les congrès en ce moment, c'est un congrès à dominante républicaine et donc un certain nombre des représentants et des sénateurs sont contre la levée de l'embargo et il y a un assez fort, disons entre guillemets, un assez fort lobby cubain qui est en train d'empêcher tout changement.
Ouais, mais pourquoi? On a du mal à comprendre pourquoi les républicains, qui contrôlent effectivement le Congrès, refusent de mettre fin à cet embargo?
Ah, parce que c'est une question des politiques étrangères, mais c'est aussi quelle est la politique des membres du Parti républicain. Et là, on a un certain nombre des Cubains, des élus cubains, ou cubano-américains, comme vous voulez, qui sont assez, entre guillemets, conservateurs, qui sont contre tout échange avec Cuba et contre toute ouverture avec Cuba. Donc, eux, ils jouent un rôle très important au Sénat et dans les États, donc il y a la Floride, des autres États, et qui, donc, ils vont empêcher à tout prix d'ouvrir, de lever l'embargo.
Merci d'avoir été avec nous, Mario Menendez, spécialiste de la politique étrangère des États-Unis. Zico, bonne journée évidemment à Lubumbashi. On va terminer avec le Venezuela. On vous en a parlé évidemment sur l'antenne d'RFI et cette démonstration de force de l'opposition. C'était jeudi dernier. 1 million de personnes dans les rues de Caracas. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Angomel.
Vous êtes à Conakry en Guinée. On vous écoute.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Je disais, le 1er septembre dernier, l'opposition vénézuélienne a réussi à mobiliser plus d'un million de manifestants dans les rues de Caracas contre le président Nicolas Maduro. Alors, quelle a été pour cette opposition la cause de la réussite de cette dernière manifestation, alors que toutes les autres organisées cette année se sont soldées par des échecs?
Ouais, c'est vrai que l'opposition n'avait jamais réussi à mobiliser autant de militants pour dénoncer la politique du président Maduro. Bonjour Paola Vasquez-Lesama.
Bonjour.
Vous êtes docteur en anthropologie sociale et ethnologie à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes spécialiste évidemment du Venezuela. Comment s'est-il que cette fois-ci les Vénézuéliens ont massivement répondu présent à l'appel de l'opposition?
La première chose à dire, c'est que ce ne sont pas des militants de l'opposition qui ont manifesté, mais des citoyens qui sont en train de souffrir une situation terrible sociale et économique et qui demande un changement de politique d'une manière urgente parce que c'est une situation pratiquement humanitaire qui se passe au Venezuela dans le sens où la pénurie d'aliments et de médicaments et il y a 80% des médicaments qui manquent pour les maladies chroniques et les maladies les plus bénignes. Ouais. Donc c'est ça, c'est pas une question de militantisme de l'opposition.
Mais on comprend.
Je demande même des adhérents du chavisme qui demandent donc une sortie de Maduro.
Ouais. On comprend la situation dans laquelle vivent les Vénézuéliens, mais jusqu'à présent, on avait l'impression qu'ils avaient peur de sortir. Peur parce que tout le monde a encore en tête les manifestations d'il y a 2 ans, la répression, les morts, les blessés. Aujourd'hui, on n'a plus peur?
Oui, bien sûr qu'on a peur. Il y a d'ailleurs des journalistes, il y a des personnes en prison, il y a des leaders de l'opposition qui sont en prison, mais ça a été une manifestation de ras-le-bol avec des personnes qui sont venues, beaucoup de personnes du monde qui est venues de la campagne et des zones les plus éloignées, même des Indiens de l'Amazonie, ont marché 1000 km jusqu'à Caracas pour faire savoir leur désarroi.
Ouais. Et l'opposition va continuer à appeler à manifester. Il y a déjà une nouvelle marche prévue demain et une autre manifestation la semaine prochaine, le 14 septembre. Paola Vasquez-Lezama, c'était bref, mais très intéressant. Merci d'avoir été avec nous. On est obligé de rendre l'antenne pour le point complet sur l'actualité africaine et on reviendra tout de suite après, évidemment. Nous vous donnerons la parole. On parlera du Mali et de la politique du président Ibeka.
Priorité santé.